Hello à toutes et hello à tous, bienvenue sur le podcast Inspirons le féminin, le podcast des femmes qui viennent de tout horizon. Dans ce podcast, je vous invite à découvrir chaque semaine le portrait d'une femme qui se livre sans filtre sur son parcours, ses réussites, ses échecs, ses apprentissages, mais aussi ses doutes, ses difficultés. Inspirons le féminin, c'est la voix de toutes les femmes et de l'entrepreneuriat sans paillettes. Un podcast pour vous inspirer et pour trouver votre modèle. Aujourd'hui, j'accueille Zineb Agoumi, la CEO et cofondeur de EasyGain. Zineb est née et a grandi au Maroc. Au moment de son adolescence, elle vient en France pour intégrer l'ESSEC et la Centrale. Alors qu'elle est encore étudiante, sans le vouloir, c'est l'histoire de sa grand-mère qui a du mal à marcher à cause de ses chutes qu'elle va se retrouver vers le chemin de la création de son entreprise. Zineb va visiter des centres de rééducation et des EHPAD au Maroc, puis en France, et elle constate que les solutions sur le marché n'ont pas évolué depuis des années et qu'ils gagneraient à être simplifiés. La maladie de sa grand-mère la motive alors à développer un produit pour aider les gens à apprendre à marcher en toute sécurité. Mais Zineb n'est pas une spécialiste des appareils médicaux et c'est sa rencontre avec le médecin Thierry Albert qui va lui permettre de concrétiser le projet EasyGain.
Il me l'a dit a posteriori. Je sais qu'au moment où on s'est parlé, j'ai dit « Tiens, je veux prendre cette idée et je veux transformer cette idée en projet et en produit réel. » Et a posteriori, il m'a dit « Ah, je me disais, cette petite fille, comment elle va faire pour y arriver ?» Mais bon, il s'est dit « Pourquoi pas ?» et ça a marché.
Même si le premier prototype n'était pas du tout au point, comme elle le dit, le produit est très bien reçu par les structures qui deviendront très vite ses premiers clients. S'en suivra alors un développement à l'international et bientôt la conquête du marché à domicile, ce qu'elle prévoit en 2023. Dans cette interview, Zineb nous confie comment et pourquoi elle n'a jamais douté de son projet et de ce qui l'a toujours animé, celui du sens, le sens dans la vie de ses patients et du sens dans sa vie à elle. Simplifier et faire évoluer le marché de la rééducation, c'est maintenant et c'est avec Zineb Agoumi de EasyGain. Belle écoute. Bonjour Zineb.
Bonjour.
Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast.
Et je suis très contente d'être là.
Eh ben, merci à toi. Alors Zineb, tu es la CEO et la fondatrice de EasyGain. C'est une start-up dont l'objectif est d'aider les personnes à mobilité réduite, des personnes qui sont en situation âgée ou en situation d'handicap. C'est pour les aider à remarcher. Alors on va en parler un peu plus, mais juste avant, je vais te laisser te présenter.
Oui, alors je suis Zineb, je vais remonter un peu plus loin, donc je suis née à Rabat au Maroc, où j'ai grandi jusqu'à mes classes préparatoires. Je suis arrivée en France en 2011, et là j'ai suivi un double diplôme commercial et ingénieur à l'ESSEC et à Centrale Paris. Et à ce moment, j'ai commencé à m'intéresser au sujet des chutes chez les personnes âgées, chez les personnes qui ont du mal à marcher, pour des raisons personnelles. Donc j'avais ma grand-mère qui faisait des chutes chez elle à la maison et on se demandait comment faire pour lui permettre de marcher en sécurité. Donc le projet a commencé comme ça. C'était un projet étudiant au départ qui allait beaucoup plus loin que ce qui était prévu initialement.
D'accord. Oui, bah, c'est la question que j'allais justement te poser, donc de revenir un peu à tes origines au Maroc parce qu'on va dire que l'idée est née un peu là-bas. Mais toi, donc, tu as grandi là-bas, mais tu as fait tes études ici en France. Tu faisais quoi comme études ici en France quand tu es arrivée là ?
Du coup, c'était des études très généralistes. En école de commerce, on apprend un peu de marketing, un peu de commerce, un peu de finance, à gérer une boîte de manière plus générale.
D'accord, mais tu avais déjà une idée en tête d'entreprendre ?
Non, pas du tout. Mais en école, en dernière année, on avait la possibilité de faire une filière entrepreneur. J'étais très curieuse et je me disais, qu'est-ce que ça veut dire une filière entrepreneur ? Comment on apprend à entreprendre ? Est-ce qu'on peut vraiment apprendre à entreprendre ? Bon, finalement, je me suis rendu compte que non, mais ça donnait au moins beaucoup de tips. Il y avait beaucoup de témoignages entrepreneurs que je trouvais très, très intéressants. Et surtout, il y avait une énergie telle qui donnait vraiment envie d'avancer et d'entreprendre.
D'accord, tu veux dire qu'il y avait une grosse différence entre apprendre à entreprendre et entreprendre sur le terrain ?
Oui, parce que on apprend, dans la théorie, c'est tracé, c'est facile. Si on fait ça, ça marche. Dans les faits, c'est très, très différent.
Bah justement, tu vas nous raconter ça. Donc du coup, effectivement, tu nous racontais, c'était en 2015, si je ne me trompe pas, que ta grand-mère donc fait cette chute. D'ailleurs, elle en fait plusieurs après, comme tu le disais. À ce moment-là, tu as observé justement des conséquences sur son physique, donc elle avait du mal à marcher. Et toi, comment t'es arrivée à cette idée de proposer une solution pour ta grand-mère? Donc je sais que tu as visité des centres de rééducation. Qu'est-ce que tu as pu observer à ce moment-là?
En fait, je me disais, moi j'étais en école, je me disais que forcément en France, il doit y avoir du matériel adapté. Et j'ai commencé à me renseigner un petit peu, et finalement non. Dans ce parcours de rencontre, j'ai visité plusieurs centres de rééducation, maisons de retraite, associations d'aide à domicile, pour voir comment font les personnes pour marcher, s'ils n'ont pas une personne ou deux à côté pour les tenir. Et je m'étais rendu compte que soit il y avait des grosses machines, qui sont très bien en l'occurrence, mais adaptées à des gros centres parce que très coûteuses et très encombrantes. Soit on avait des tapis classiques qu'on peut voir dans des salles de sport par exemple, mais qui ne sont pas du tout sécurisés. Donc il y a un risque de chute encore plus gros que si la personne marche par terre. Ou sinon, on a les barres parallèles. Donc là, il faut que la personne ait quand même des muscles au niveau du bras pour pouvoir se tenir. Ou sinon, il y a la trottinothérapie. C'est tout simplement lorsqu'on a une personne qui va tenir une autre personne et l'aider à marcher. Pas très pratique et surtout, il faut être accompagné. Et là, donc c'est pas moi qui ai eu l'idée de base, c'est un médecin que j'ai rencontré dans ce parcours qui était médecin neuro et il voyait beaucoup de médecins MPR, de rééducation, qui voyait beaucoup de patients neuro qui ont des maladies neurodégénératives, des scléroses en plaques, Parkinson, etc. Et son problème, c'était que ces patients arrivent au centre, ils font quelques semaines de rééducation, ils sortent du centre et à la maison, ils ne peuvent rien faire et ils reviennent dans un état dégradé quelques mois plus tard. Et ils voulaient développer quelque chose pour le domicile, donc nos souhaits se sont alignés et on a lancé ce projet ensemble avec mes autres associés.
D'accord, il s'agit de Thierry Albert, c'est ça ?
C'est ça.
D'accord. Et du coup, vous vous êtes rencontrés parce que toi, justement, tu cherchais une solution pour ta grand-mère, c'est ça ?
Alors, moi, je me renseignais sur le marché. Lui avait une idée depuis plusieurs années déjà, mais il est médecin, chef d'un centre de rééducation, donc il n'a pas forcément le temps de la développer. Et moi, mon histoire personnelle fait que j'étais très, très motivée pour la développer.
D'accord, donc vous êtes retrouvés tous les deux à imaginer justement une solution pour laquelle tous les deux, de façon différente, vous aviez une problématique. Mais comment vous avez joint, justement, vous êtes dit, vous complétiez, en fait, quelque part, lui, la partie connaissance métier, médecine, etc., et toi, peut-être, la partie commerce?
Oui, c'est ça. Et moi, je me souviens du premier rendez-vous que j'ai eu avec lui. Donc, on ne se connaissait pas, forcément. Et il me l'a dit a posteriori. Je sais qu'au moment où on s'est parlé, j'ai dit, tiens, je veux prendre cette idée et je veux transformer cette idée en projet et en produit réel. Et a posteriori, il m'a dit, cette petite fille, comment elle va faire pour y arriver? Mais bon, il s'est dit pourquoi pas et ça a marché. Et donc oui, jusqu'à aujourd'hui, donc c'est une personne qui nous accompagne. On n'arrête pas de développer de nouveaux produits. On continue à innover et il est la caution médicale pour nos produits et nos développements.
Donc vous avez développé, d'accord, les produits ensemble. Et j'imagine qu'il y avait tout un défi derrière, justement, donc de proposer des machines qui soient moins volumineuses, qui soient, en termes de coût, moins importantes que les machines que tu nous décrivais avant par rapport à votre cible.
Oui, c'est ça. On a dû faire une étude de marché, déjà, pour bien préciser et être clair sur tout ce qui existe. Et ensuite, il y a la partie production. Sachant qu'en me lançant sur la production, il faut savoir que je n'ai aucune compétence hardware. Et donc, j'y allais un peu frontalement. Donc, j'ai commencé par gagner quelques concours qui m'ont permis de financer des freelances ou des prestataires pour faire des premiers protos. Et je me souviens que dans mon premier business plan, quand je pitchais le projet, je disais que dans 6 mois, on aura le produit fini, certifié, industrialisé, vendable et distribuable auprès des clients qui sont des hôpitaux. D'une personne très sincère et très gentille dans un des jurys qui m'a juste dit que c'était impossible, mais qu'elle trouvait ça mignon, que je trouve ça réaliste. Et je me dis que cette naïveté, c'est marrant a posteriori de se dire qu'on était aussi naïf, mais était vraiment très utile. Et il faut être naïf pour avancer, pour ne pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur.
Mais oui, c'est ça. Donc, comme tu n'avais pas d'obstacle dans ta tête, tu n'avais pas la peur, tu n'avais pas la connaissance même, on va dire, de combien de temps ça prend une production. Donc, ton côté naïf t'a permis quand même d'avancer quelque part. Parce que peut-être que si tu avais su en avance que ça mettrait autant de temps ou que ça serait plus compliqué, est-ce que finalement, tu t'aurais dit ben, non, en fait, j'y vais pas?
Non, parce que en fait, je ne sais pas, mais je pense que je me mentais un peu à moi-même. Je voyais quand même pas mal de témoignages et de projets qui mettaient plusieurs années, au moins 2-3 ans pour vraiment émerger. Donc, je voyais ça autour de moi. Mais je voulais quand même y aller et je voulais croire que c'était proche et possible. Et ça me permettait de résister. Même si, donc, c'est pas très clair en fait. Je ne sais pas répondre à cette question.
Bah, le plus important, c'est que tu y croyais en fait. Donc, vraiment, donc, tu avais cet objectif-là. Donc, à ce moment-là, tu étais la dernière année de
Il me restait encore une année.
Il restait encore une année. Donc,
oui.
D'accord, tu étais déjà l'année où tu es dans la partie commerce, du coup, développement d'entreprise, création.
En fait, mon double diplôme, c'était une alternance. Je faisais une année à Centrale, une année à l'ESSEC, une année à Centrale, une année à l'ESSEC. Les deux dernières années, j'étais à Centrale puis à l'ESSEC. Et à l'ESSEC, il y a un programme qui permet d'avoir des cours à des horaires un peu particuliers, de manière allongée. Et ça me permettait d'avoir du temps pour le projet, du coup. Et donc, c'était une grande chance que j'avais.
Ouais, de pouvoir dégager du temps, mais est-ce que ça te permettait aussi ces cours-là de t'aider justement sur la construction de ton business plan, sur la manière de voir
tout,
c'était vraiment tout tourné autour de ça.
Tous mes projets de cours, tous mes stages, tout ce que je pouvais faire en école, autre que les cours, était dédié à ce projet.
D'accord, c'était vraiment ton projet à toi, celui que tu voulais concrétiser jusqu'au bout. Et tu disais tout à l'heure que tu avais gagné plusieurs concours parce que j'allais te poser la question. C'est quand même de la machine, on est sur le domaine de la santé, ça demande un investissement. Comment t'es allée chercher ces premiers investissements? Donc tu parlais de concours, tu peux nous en dire plus?
Oui, il faut savoir qu'en France, il y a beaucoup, beaucoup de financements pour commencer. Il y a la BPI que tout le monde connaît et qui permet en tout cas, quand on commence, c'est pas du tout négligeable les aides qu'ils proposent. Ça permet de financer les prototypes, la recherche, l'innovation. Et il y a pas mal de concours thématiques qui ne sont pas forcément répétés d'année en année. Donc, pour ceux qui veulent entreprendre, il faut vraiment chercher au jour le jour. Il y a des sites qui répertorient l'ensemble des appels à projets et des concours dans toutes les thématiques. C'est assez exhaustif. Ça nous avait permis à l'époque d'avoir 200 à 300 000 euros de financement pour commencer. Et ça permet déjà d'avoir des prototypes, de les tester, de faire des études marketing, d'embaucher quelques personnes. Donc voilà, ça, c'était pour le début. Ensuite, on a fait une levée de fonds de 500 000 euros en 2017 et de presque 1 million en 2019. Et depuis, on est rentable, donc on n'a plus besoin de lever de fonds.
Donc, ton conseil, c'est vraiment d'aller sur ces aides, sur ces concours-là quand on démarre. Et puis après, ça permet de mettre les premiers fonds pour pouvoir démarrer son projet et ensuite d'avancer peut-être après vers la levée de fonds comme vous avez fait.
Oui, c'est ça. Après, ça dépend des profils. Nous, on était dans le cas où on sort d'école. On n'a pas d'économie et on avait quand même besoin d'argent. Aller voir des fonds quand on n'a rien fait, rien prouvé, c'est vraiment compliqué, voire impossible. Mais avoir un peu de financement pour commencer à prouver que les choses marchent, qu'il y a de l'intérêt et que le produit, s'il est techno, est réalisable. Des concours, c'est vraiment un bon moyen. Maintenant, il y a d'autres entrepreneurs qui vont avoir des économies, qui ont pu travailler quelques années. Là, souvent, ils vont investir de leurs fonds. De leurs économies pour commencer et lancer le projet.
Ben quand vous avez lancé le projet, donc du coup, c'était quoi la première machine? Si tu peux justement nous expliquer exactement un peu, Easygain, quel produit vous proposez, quelle machine en tout cas vous proposez et pour qui?
Alors, c'est très visuel, donc je vais essayer de faire imaginer le produit. Donc, c'est un tapis, type tapis de course qu'on peut voir en salle de sport, avec un système qui permet de mettre debout des gens qui sont en fauteuil roulant. De manière automatique, un système de harnais qui permet de les mettre debout, d'alléger leur poids de corps pour qu'ils puissent marcher en sécurité. On a des patients, par exemple, qui ne peuvent marcher que sur 50% de leur poids de corps. Là, nous, on peut, s'ils pèsent 100 kg, on peut alléger 50 kg de leur poids. Et ça leur permet d'être debout, de faire des pas et de s'exercer. Et dans ce tapis, donc, au-delà de la partie hardware, on a des capteurs qui sont connectés à un iPad et qui permettent de faire de l'analyse de la marche, de l'équilibre, de connecter à des jeux de rééducation pour que le patient puisse s'exercer de manière ludique et pas ennuyeuse. Il y a plusieurs choses qu'on a pu ajouter ensuite, mais en tout cas, ça, c'est le produit initial. Et le prototype, à quoi il ressemblait? À rien.
En général, le premier, c'est un prototype, comme on dit.
C'était non seulement pas joli, mais en plus pas très safe. Mais ça ressemblait à un tapis, une base de tapis Décathlon avec deux barres métalliques. Voilà, c'était vraiment basique, mais ça a permis quand même de montrer aux gens ce qu'on veut faire, d'aller voir des médecins, des patients, de challenger le concept. Et donc, c'est suffisant. Ça a fait le rôle du proto que ça devait faire.
C'était suffisant et pour déjà travailler, aller voir sur le marché, comment ça prenait, les retours des médecins, comme tu dis, des patients. Donc, il y avait déjà le système de harnais.
Oui, il y avait un système de harnais, mais on était là à côté parce qu'on n'était pas très serein. Très serein sur la sécurité. Heureusement, ça n'est plus le cas aujourd'hui.
Oui, j'imagine, parce que déjà, tu as commencé le projet, tu avais 24 ans. Aujourd'hui, tu en as 32, 33, je crois. Donc, entre-temps, il a fallu développer et faire grandir EasyGain. Comment tu as démarché, justement, parce que vos premiers clients, on va dire, donc c'est les EHPAD. Je ne sais pas si on dit client vraiment quand on est dans le système de la santé ou pas.
Oui, ce sont des clients, des partenaires.
Partenaires, voilà. Donc, c'est vraiment des EHPAD. C'est votre première cible?
Alors, c'est les EHPAD, les hôpitaux, les centres de rééducation, les cabinets de kiné. C'est tous les endroits où on a besoin de rééducation et de matériel adapté. Comment on a fait? On a contacté des gens. Moi, je me souviens qu'un des groupes, que je n'aurais pas forcément ici, mais en tout cas, un des groupes avec qui on travaille, on a contacté le directeur. On l'a un peu... On savait qu'il allait intervenir dans une conférence. On y est allé et on est allé lui parler à la fin pour avoir le contact du DG. Et ensuite, on a été référencé dans ce groupe et ça a avancé très vite avec eux. Il y a certains groupes qu'on a contactés par LinkedIn, ça marche très bien aussi. Les messages sont bien ciblés. Et voilà, pour commencer, c'était déjà suffisant. Et ensuite, sur la partie hospitalière, on a essayé de contacter les médecins qui s'intéressent à la rééducation de la marche avec beaucoup, beaucoup de recherches sur Google. Rien de très, très magique, mais ça marche.
D'accord, donc une recherche bien ciblée par rapport à votre produit pour être sûr que la personne que vous avez contactée est bien intéressée et qui serait prête à vous écouter, en fait.
Oui, c'est ça.
C'était quoi leur retour, justement?
Un retour très positif, mais ils attendaient de voir l'exécution et la réalité du produit et de ce qu'on propose vraiment. Donc, on avait beaucoup de lettres d'intérêt, mais je me souviens que la première machine qu'on a livrée, c'était un peu à cette période, donc fin décembre 2017. Et je recevais un coup de fil d'un des établissements le 4 ou 5 janvier. Et j'étais en stress total. Je me suis dit, mince, j'espère que le produit a tenu, que personne n'est tombé sur la machine. Et vraiment, j'avais peur qu'il y ait un problème. Et non, c'était juste pour dire que ça se passe très bien, qu'ils étaient contents. Donc, ça nous a boosté. On a pu contacter d'autres clients.
Oui, le premier client, c'est toujours un peu le stress de se dire, est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que tout va marcher et tout? Donc, et là, c'était positif. Du coup, ça vous a boosté à continuer.
Exactement.
Justement, pendant toutes ces années, je voulais te demander comment t'as réussi à tenir sur la longueur, sachant que j'imagine qu'il y a des moments aussi où c'était plus compliqué que d'autres. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi ces moments les plus compliqués et comment t'as pu tenir aussi longtemps, puisque le temps de faire le premier prototype et puis ensuite de tester, etc. Donc, c'est passé par des étapes. Qu'est-ce qui t'a fait tenir sur toutes ces étapes-là?
Alors, d'un point de vue perso, c'est le fait d'avoir une famille qui me soutient, vraiment. Et donc, je me sentais bien entourée, quoi qu'il arrive. Et vraiment, en faisant ce projet, je me disais que si ça ne marche pas, c'est grave, c'est pas grave, mais c'est quand même un peu grave. Donc, je faisais tout pour que ça marche. Mais voilà, j'avais un soutien moral très, 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 très important. Et j'y tenais. Donc, je tenais à garder cet équilibre pro, perso, et à ne pas avoir un équilibre de vie qui me permet d'être forte. Et d'un point de vue pro, j'ai une équipe incroyable. Et avec mes associés, depuis toutes ces années, on est vraiment très soudés. Ce qui aide beaucoup. Et si à un moment, par hasard, il y en a quelqu'un qui... Si je suis en down, il y en a un qui va me relever et inversement. Et oui, ça aide vachement. Maintenant, sur le projet, c'est vrai que depuis le début, il n'y a aucun jour où je me suis levée en disant « mince, j'ai pas envie » ou « ça m'embête ». Et c'est vraiment le projet en lui-même. C'est que je crois réellement qu'on apporte des choses intéressantes aux patients. Et quand parfois on va voir un patient qui se met debout après 2 ans et qui pleure ou qui est complètement impressionnée. Enfin, voilà, il y a beaucoup de phrases et de témoignages et de moments très émouvants qui font dire que oui, peut-être que c'est difficile parce que c'est du hardware, parce que c'est de l'entrepreneuriat, comme ça peut être difficile pour tout le monde. Mais on a un rôle, on a un impact sur cette terre et ça, ça motive vraiment.
Oui, c'est que derrière, il y a l'humain, en fait. Donc,
Oui. Et pour le coup, l'impact est vraiment très visible. Et voilà, moi, j'y dis toujours, je suis une pleureuse. Le nombre de fois où j'ai versé des larmes dans ce projet, en voyant des enfants qui se mettent debout et qui sourient alors que voilà, ils ont une vie difficile, des personnes âgées qui sont motivées à faire plus, des adultes qui ont des maladies neurodégénératives qui se déclarent soudainement à 30, 40, 50 ans. Et nous, on est là, on ne résout pas du tout tous leurs problèmes, mais on apporte quelque chose dans l'ensemble de leur vie.
Pour les aider, en tout cas, à améliorer au niveau de la partie santé, vous êtes là. Et d'ailleurs, oui, ça, c'est des appareils qui ne sont pas seulement destinés à des personnes âgées. Hein. Il y en a aussi pour les enfants, comme tu disais, qui ont des...
C'est ça, c'est vraiment pour tout le monde, pour toutes les personnes qui ont des problèmes de marche, d'équilibre, et qui ont besoin de s'entraîner, de se mettre debout en sécurité sans risquer de tomber. Et notre particularité, qu'est-ce qui nous motive aussi, c'est qu'on a lancé les versions pour les pros, pour les établissements, mais depuis le début, on a la vision du domicile, donc c'est quelque chose qu'on veut réellement faire. Et là, depuis quelques mois, donc, depuis une année quasiment, on a lancé l'offre domicile et on teste un nouveau marché très gros, pas du tout encore adressé par des industriels aujourd'hui, parce que c'est un marché compliqué. Mais on veut y aller parce qu'on sent qu'il y a de l'impact à avoir dans ce marché-là.
Oui, 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 il doit aussi en avoir, puisqu'à domicile également, ce que tu disais au début quand tu racontais l'histoire, ce que te disait le médecin, c'est-à-dire que les personnes qui rentraient chez eux et qui revenaient dans un mauvais état, donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment un besoin. Mais du coup, avec ce produit-là, vous répondez vraiment à une demande, à quelque chose, enfin, vous proposez un produit qui n'existait pas sur le marché avant.
Alors, sur le produit en lui-même, donc, on a pris des choses qui existaient. Ce qu'on a essayé de faire, c'est rendre l'usage simple, le produit compact. Et on a beaucoup travaillé sur le design du produit, pas d'un point de vue esthétique, mais d'un point de vue d'usage, parce qu'on s'en rendait compte qu'il y avait des machines qui sont installées dans les centres, qui sont très bien techniquement, mais qui sont très difficiles à paramétrer pour les kinés ou les ergothérapeutes qui sont dans les centres. Et donc, finalement, ce sont des machines non utilisées. On a essayé de faire un produit 3 en 1, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais enfin, un produit très, très complet et surtout très, très simple d'utilisation.
D'accord. Donc, vous avez pris des choses qui sont existantes sur le marché. Donc, ça, c'est intéressant comme vision. C'est-à-dire, on peut prendre quelque chose qui existe sur le marché et en fait, vous l'avez amélioré et simplifié.
Oui, et simplifié et évolué. Donc, on a commencé par le tapis Emma que je décrivais tout à l'heure. On a ajouté depuis quelques temps un module de réalité virtuelle qui permet à des patients d'être en complète immersion dans une forêt, dans une ville, dans un univers virtuel qui les change des murs de l'hôpital ou des murs de leur maison quand ils sont chez eux tout le temps, tous les jours. Voilà, on est les premiers à faire ça avec un tapis de marche. Oui.
C'est intéressant. C'est vrai que marcher sur un tapis de marche et avoir un mur, c'est pas très drôle, quoi. Mais si on peut être dans une réalité virtuelle, ça peut effectivement rendre, on va dire, la tâche qu'on est en train de faire, l'activité qu'on est en train de faire beaucoup plus sympathique.
Oui, et aujourd'hui, on est les seuls à faire ça dans le monde. De coupler la marche, la rééducation de la marche à de la réalité virtuelle de manière simplifiée et faisable, surtout en établissement et à domicile.
Et mais d'ailleurs, tu dis que vous êtes les seuls dans le monde et j'ai même vu, donc vous êtes aussi à l'international du coup.
Oui, on a commencé à l'export il y a 2 ans. On est présent dans plusieurs pays, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, à Hong Kong, à Singapour, au Maroc, et je suis contente d'être là-bas. Et on développe déjà ces marchés-là avant d'aller sur d'autres marchés.
Ça fait quand même pas mal de pays.
Oui, oui, c'est déjà pas mal pour ce qui
est. L'international, c'est encore un autre défi. Donc, ça a été, vous avez pris quelqu'un de spécifique pour l'international?
Non, on passe par des distributeurs. Donc, on est plus en gestion des distributeurs qu'on a sur les différents pays. En support pour le SAV, s'il y a du SAV, en support commercial pour les démonstrations qu'il peut faire, en support dans les salons et les congrès. Mais voilà, c'est eux qui distribuent dans leur pays.
D'accord, très bien. Donc, les distributeurs sont votre cible.
Oui, c'est ça.
Et je voulais te demander justement, c'est quoi le plus gros défi quand on lance une start-up dans le domaine de la santé? Parce que c'est le côté sécurité. Est-ce qu'il y a aussi le temps? Je pensais aussi au temps, parce que comme il y a beaucoup d'administratifs en France quand on s'adresse à des EHPAD, enfin des établissements publics, est-ce que ça aussi, c'est pas quelque chose qui est vu comme une contrainte quand on se lance, en tout cas dans ce domaine-là?
Bah, honnêtement, il y a beaucoup de défis.
J'imagine, parce que tout ce qui touche à la santé, il y en a pas mal.
Mais pour assurer, je pense que beaucoup sont quand même... c'est gérable et assez surmontable. Maintenant, moi, je suis très, très contente d'avoir rencontré quelqu'un, je ne me souviens plus qui m'avait parlé de la certification dans le domaine médical en disant, attention, si ça ne sert à rien de développer un produit pendant 1, 2, 3 ans et ensuite se rendre compte qu'il faut tout refaire parce qu'il manquait quelque chose, même si c'est tout petit, mais qu'il manquait quelque chose pour le faire certifier. Et donc, avant même de commencer à développer le produit, je me souviens qu'on avait fait 10 000 euros d'un concours, et c'est tout. Donc, c'était vraiment le tout début. Et on avait dû payer 5 000 euros pour avoir un consultant qu'on consulte, qu'on va voir juste pour nous dire, OK, qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue de la certification? Et c'est le meilleur investissement qu'on a pu faire à l'époque. Il faut vraiment faire ça avant d'aller développer les produits, de rentrer dans la technique, prendre un peu de recul. Comprendre ce domaine-là et y aller de manière sereine. Voilà. Ça, c'est vraiment un conseil pour les personnes qui veulent se lancer dans le médical. S'intéresser et s'interroger sur la certification avant même de développer les produits. Sinon, on risque de passer plusieurs années, pas pour rien, mais voilà, de prendre du retard inutile.
Oui, parce que non, c'est un bon investissement, surtout que tu ne viens pas du tout du domaine médical. Donc là, pour le coup, il fallait absolument se faire accompagner dès le début sur ces questions-là. Pour éviter de perdre du temps, comme tu dis. Ben c'est bien aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, je t'ai rencontré chez Cartier Women's Initiative, du coup. Tu es fait partie de ce programme. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le programme, nous dire ce que c'est et pourquoi tu l'as intégré?
J'avais rencontré une super entrepreneuse qui s'appelle Cécile Réal, qui a un fonds d'investissement dans le médical. Donc, j'ai rencontré dans le cadre de ma levée de fonds. Et c'était le tout début, vraiment tout début des IGN. Elle m'avait parlé de ce concours en me disant qu'un jour, ce serait bien que j'y participe. Et je me souviens que j'avais vu les conditions pour répondre au concours de quartier, qui me paraissaient très difficiles au départ, mais je l'ai quand même fait. Et donc, j'ai été sélectionnée parmi les lauréates Europe et j'ai été lauréate Europe de l'édition 2019. Alors, ça consiste en un accompagnement pendant un an, quasiment, enfin plusieurs mois, par un mentor qui est attitré par quartier. Qui accompagne sur différents sujets, vraiment tous les sujets possibles d'entrepreneurs. Et ensuite, on est ensemble avec les candidates qui viennent du monde entier. Et on a un coaching sur des aspects très, très particuliers. À mon année, c'était à San Francisco. Il y avait beaucoup de coaching sur le pitch, sur la présentation financière d'une entreprise, sur des choses assez techniques. Il y avait une grosse soirée ensuite. Où on pouvait rencontrer vraiment beaucoup, beaucoup de partenaires et de relais pour notre entreprise. Et plus que ce concours-là, il y a tout ce qui vient après. Donc, c'est vraiment une communauté de personnes partout dans le monde qui s'aident entre elles sans avoir d'intérêt particulier à le faire. C'est assez spécial, mais ça a été génial comme aventure.
Oui, ça a été une belle expérience. Ça t'a beaucoup aidé, du coup, dans la structuration de ton activité, enfin, sur certaines questions peut-être que tu te posais?
En fait, sur certaines questions, oui, ça a aidé l'entreprise parce qu'on a eu 100 000 euros de gains. Mais surtout, à titre personnel, c'est un enrichissement. Voilà, c'est un enrichissement personnel important.
Donc, c'est quelque chose que tu conseillerais, justement, d'intégrer ce genre de programme pour les femmes?
Je dirais que ça dépend des programmes. Il y a trop de programmes pour les femmes. Je ne peux pas me prononcer pour les gens, mais il vaut mieux faire un programme ou deux et être vraiment investi qu'essayer d'être partout mais nulle part en même temps. Parce que ça prend du temps et oui.
Ouais, choisir le programme en tout cas qui nous correspond le mieux par rapport à son envie et ce qu'on a envie de faire.
Oui.
D'accord. Donc maintenant, ça fait 7 ans que tu es sur EasyGain. qu'est-ce qui te tient le plus à cœur dans ce projet-là?
Qu'est-ce qui me tient le plus à cœur, c'est d'arriver au domicile, d'arriver à craquer ce marché où il y a un besoin énorme, mais beaucoup de challenges opérationnels, financiers, etc. Mais voilà, c'est de craquer ce marché du domicile. C'est mon prochain défi. C'est vraiment mon prochain défi.
ton prochain défi, c'est vraiment le domicile, quoi. Arriver chez les gens, pouvoir entrer chez les gens pour pouvoir les aider justement sur cette partie-là, comme on disait, donc la marche, en tout cas l'aide physique.
Exactement.
Justement, bah, du coup, je veux te poser ta question pour ta grand-mère. Est-ce qu'elle a pu voir le produit ou pas ?
Non, elle est décédée bien avant la fin de... Bah, en tout cas, que le produit soit prêt. Mais je pense qu'elle aurait été fière. Et moi, je suis aussi fière parce que grâce à elle, voilà, j'ai pu être motivée assez longtemps et arriver à ce projet qui aide beaucoup de gens aujourd'hui.
Ouais, c'est un très, très gros projet, en tout cas, où vraiment il y a l'humain en plein centre. Et en plus, aujourd'hui, donc, ce que tu disais tout à l'heure, maintenant, vous êtes rentable, du coup, plus besoin de lever de fonds. C'est avec l'international, non ? C'est parce que vous avez pu déployer plus de produits, enfin, plus de machines, trouver plus de clients ?
C'est pour toutes ces raisons. On a un produit qui plaît en établissement. Enfin, un produit, plusieurs produits, un portefeuille de produits qui plaisent et qui intéressent les établissements de santé. On a l'export qui vient enrôler... apporter de la sérénité, du chiffre d'affaires et un business un peu plus gros et le domicile qui commence aussi. Donc tous ces aspects-là font qu'aujourd'hui on est rentable et on a une équipe aussi que je remercie qui est très efficace. Donc voilà.
Et vous êtes combien dans l'équipe ?
On est une petite équipe de 10 personnes avec des super pouvoirs. Enfin, je dis que tous les membres de cette équipe sont vraiment super et on a hâte de grandir ensemble.
D'accord, bah c'est... En tout cas, vous avez bien fait grandir le projet. Et dis-moi, tu es maman ?
Oui, je suis maman de deux enfants, une fille de 4 ans et un petit garçon d'un an et demi, qui me prennent un tout petit peu d'énergie, mais m'en redonnent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils me sont très utiles pour mon projet aussi. Et je serais fière de leur raconter en détail ce que je fais plus tard.
Bah oui, j'imagine. Justement, mais comment tu fais pour gérer les deux ? Parce que là, ils sont petits, hein, du coup. Est-ce que tu as fait, du coup, tu as dû revoir ton planning, j'imagine, tu aurais organisé ou pas ?
J'avoue, quand j'ai été enceinte de ma grande, j'ai eu un petit peu peur de... Est-ce possible de gérer une boîte et un bébé ? Voilà, toutes les peurs qu'on peut avoir. Finalement, ça s'est très bien passé et je me sens beaucoup plus efficace comme ça qu'avant. Parce que là, j'ai un temps... je suis très organisée. Je ne peux pas me donner plus de temps pour faire des choses et donc je suis vraiment très efficace. Au contraire, je trouve que c'est vraiment bien d'être entrepreneur et maman. Moi, j'arrive voilà, à avoir les sorties de crèche et les dîners avec les enfants et ensuite retravailler plus tard le soir. Et ça ne me dérange pas du tout et ça m'arrange. Je passe du temps avec ma famille et au travail, donc c'est parfait. Et il faut pas laisser les grossesses ou... naissance, décourager les gens, c'est au contraire un booster. C'est difficile, physiquement c'est difficile, mais c'est aussi une force de pouvoir le faire. Et voilà.
Bah oui, on entend derrière d'ailleurs. Mais oui, je suis, c'est vrai que c'est parfois une barrière qu'on peut se mettre, de se dire non, je vais avoir un bébé, donc ça va être compliqué de gérer les deux. Mais finalement, comme tu dis, peut-être parfois ça nous met justement des limites qu'on ne se donnait pas quand on n'avait pas d'enfant, parce qu'on dit j'en ai pas, donc je peux travailler jour et nuit. Et là, on est obligé de s'arrêter pour avoir un moment avec sa famille et à penser à autre chose aussi. Ça nous nourrit quelque part, en fait.
Oui, et quand on est avec eux, c'est une pause intellectuelle par rapport au projet. Ça permet de se ressourcer, d'être un peu plus créatif quand on revient au travail. C'est vraiment, en tout cas de mon point de vue, que du positif. Après, il faut être aidé. J'ai vraiment beaucoup de chance d'être aidée à titre personnel par un mari qui est là pour nous. Et c'est important. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le cocon familial est source d'énergie et il ne faut pas le minimiser.
Toi, c'est ce qui t'a permis effectivement d'aller chercher, d'aller puiser ton énergie pour le projet.
Oui, c'est ça.
très bien, merci beaucoup Zineb. Je vais arriver, je vais te poser les questions que je pose en fin d'interview. Je voulais savoir quel conseil justement tu donnerais à une femme qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ce serait quoi tes tips ?
De se lancer, surtout d'avoir confiance en elle. Je remarque que je n'aime pas trop différencier les hommes des femmes de manière générale, mais quand même, c'est quelque chose que j'observe. C'est que les femmes ont tendance à moins avoir confiance en elles, en tout cas de manière générale et en moyenne. Et vraiment avoir confiance en soi et se lancer et ne pas avoir peur et se dire toujours qu'il n'y a rien de grave qui peut se passer. En tout cas, peut-être que c'est naïf, mais se le dire au moins pour avancer. Voilà, donc avoir confiance en elle.
Toi, t'as eu confiance tout de suite en ton projet ou en fait, tu t'y croyais et tu te posais pas la question ?
Alors, moi, je croyais en mon projet. J'avais aucune confiance en moi. mais j'avais confiance en le projet. Et voilà, la confiance en soi, c'est vraiment un travail sur soi de longue haleine. Et voilà, moi, à titre personnel, je ne pense pas être encore arrivée à ça. Mais je vois qu'il y a une différence, en tout cas, que les femmes ont moins tendance à avoir confiance en elles et il faut l'avoir. En tout cas, essayer de l'avoir un minimum et ensuite d'évoluer et de travailler sur soi.
Mais là, du coup, tu es la preuve que si on croit très fort en son projet, même si on n'a pas totalement confiance en soi, mais qu'on a totalement confiance en ce qu'on propose, on peut y arriver.
Oui.
Est-ce que tu aurais aimé avoir un conseil avant de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale? Quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer, qui peut-être t'aurait fait gagner du temps ou t'aurait montré des choses sous un autre angle?
En fait, quand on commence, on a tendance à demander des conseils un peu à tout le monde. Et peut-être s'écouter et ne pas forcément écouter tous les conseils de tout le monde parce que les gens ont des visions différentes de la vie, des projets, des choses que souvent les gens ont tendance à projeter leur expérience sur votre cas. Et donc, voilà, conseil, s'écouter en prenant en compte les différents conseils, mais s'écouter quand même en dernier.
Aller demander conseil, mais au final, suivre un peu son intuition à soi, en fait.
Oui.
Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien, Zineb?
Alors moi, ce que j'ai tout à l'heure, ce qui m'inspire, c'est les patients. C'est les patients qui utilisent nos dispositifs. C'est les larmes, les sourires. Et vraiment, c'est ça qui m'inspire en premier pour ce projet.
Parce que tu vas régulièrement, justement, sur place pour aller voir, justement, comment ça se passe. Tu vois les patients?
Oui, on va sur site, on va faire des salons. Il y a des événements aussi qu'on organise, donc... On a toujours des moments où on peut voir des patients et des utilisateurs finaux. Et on le sent, on le voit, c'est vraiment inspirant et ça motive, ça remotive.
C'est ce qui vous fait tenir.
Oui. Et pas juste tenir, mais vraiment, ça nous donne de l'ambition pour aller loin et déployer ça auprès du monde entier, partout dans le monde. C'est vraiment, ça donne de la confiance et de l'ambition.
Oui, parce que tu vois que c'est utile, en fait. Tu dis, c'est vraiment utile. Je vois des gens qui l'utilisent, ça leur fait du bien et c'est bon pour eux. Donc, il faudrait que ce soit pour tout le monde, partout dans le monde.
C'est ça.
Ben là, c'est bien. Déjà, vous avez beaucoup de pays. Moi, je vous souhaite encore d'autres pays. Si tu avais le pouvoir de changer quelque chose pour les femmes, ce serait quoi?
J'ai vraiment du mal avec cette question.
Pourquoi?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, je dirais comme j'ai dit tout à l'heure, la confiance en elle. Parfois, je vois aussi des cas où on va, si on a un échec, on pense que c'est parce qu'on est une femme. Et je pense qu'il faut, en tout cas, quand on est entrepreneur, on se sent entrepreneur et pas femme entrepreneur. C'est important d'enlever ce biais qu'on peut avoir aussi nous-mêmes quand on lance des projets, des sujets intéressants. Donc, ne pas se sentir, c'est bizarre comme conseil, mais ne pas se sentir femme entrepreneur, mais juste entrepreneur. Voilà, ne pas trouver des excuses ou des explications qui ne sont pas forcément vraies à chaque fois.
Ne pas mélanger le genre et l'activité en soi, quoi.
Oui.
Parce que bon, en soi, si un entrepreneur, c'est entrepreneur homme ou femme, on a un projet à monter.
Ouais.
D'accord. Quels sont tes défis pour l'année 2023?
C'est lancer le domicile, solidifier, rendre plus solide encore la boîte et faire grandir l'équipe un peu plus. Et voilà, c'est déjà pas mal comme défi pour 2023. Ouais.
Vous avez un objectif, j'imagine, pour le domicile, là, d'ici la fin de 2023?
En fait, c'est un objectif qui n'est pas... Je vais donner un objectif subjectif, c'est de faire connaître EasyGain auprès de la population qu'on adresse au domicile. Parce que jusque-là, on était très B2B avec des process commerciaux plutôt classiques. Et là, on a l'impression de lancer un deuxième projet avec des process très différents, un marketing différent. Donc voilà, c'est réussir à passer ce cap pour 2023.
Oui, du coup, la communication ne sera pas la même, parce qu'en B2B, donc, ce que tu disais tout à l'heure, c'était plus des contacts soit via des événements, soit via LinkedIn, ou alors prendre le téléphone et appeler directement les centres. Et là, on est sur du B2C, donc ça va être un autre marketing, une autre façon de communiquer.
C'est ça.
Parce que j'imagine que vous avez déjà réfléchi.
Oui, c'est ça. On a réfléchi, mais maintenant, il faut qu'on exécute et qu'on fasse les choses. Et oui, on attend 2023 avec impatience pour y aller à fond.
D'accord. Est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire?
Il y a vraiment beaucoup de femmes qui m'inspirent et que j'apprécie en tout cas dans le paysage. Et il y en a une en particulier qui s'appelle Mathilde Thomas, qui est une des fondatrices de Caudalie, une marque de cosmétiques, qui a une vision de l'équilibre pro-perso qui est très intéressante, qui a fait grandir de manière impressionnante une boîte et qui a une ambition qui ne s'arrête pas. Voilà, c'est une personne vraiment intéressante à suivre, en tout cas.
Oui, très connue, oui, Mathilde Thomas, Caudalie. Effectivement, elle a fait une très, très belle marque. Hein. Ce qu'elle a réussi à faire avec Caudalie, c'est très inspirant. Et effectivement, elle est maman aussi. Donc, je ne connais pas sa vision équilibre pro-famille.
En tout cas, elle est vraiment intéressante à suivre.
D'accord, bah, je regarderai ce qu'elle dit là-dessus. Ça m'intéresse aussi. Est-ce que tu as une maxime, un proverbe qui t'accompagne ?
Oser réaliser ses rêves. Oser, parce que sinon on reste sur notre faim. Et...
Ouais, après, on peut avoir des regrets, c'est pas bon.
Oui.
Au moins, si ça ne marche pas, on aura essayé.
Oui, et c'est très basique, mais juste, ça va aller. Quand ça va pas, il faut se dire que ça va aller, que ne pas avoir peur aussi des problèmes, parce que la vie est faite de problèmes et de difficultés. Mais avoir le courage de réagir et de se relever à chaque fois, c'est vraiment important.
Toi, justement, comment tu fais comment tu affrontes, on va dire, quand il y a des problématiques ? Quand il y a des problématiques dures dans la partie de business, c'est quoi ta réaction ? Comment tu le vis ?
Si j'ai un moment difficile ou une mauvaise nouvelle, par exemple, c'est vraiment très basique, mais je respire, je fais autre chose. Je vais faire du sport ou danser ou faire autre chose. Et déjà, se calmer, prendre un peu de recul. Et ensuite, si c'est un problème qui peut se gérer entre personnes, ben, essayer de comprendre les souhaits de chaque partie et essayer de trouver un compromis. Ou quand il y a un problème, juste dire « Ok, c'est comme ça, ben, on va avancer différemment et ouvrir d'autres portes. » Voilà, quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent et il faut pas rester bloqué et se dire que c'est la fin du monde. C'est rarement la fin du monde. Donc...
oui, et quand ça continue de tourner. D'accord, donc respirer, faire autre chose pour faire retomber la pression. Et ensuite, voir si on peut trouver une solution. Et s'il n'y en a pas, il y a toujours une autre porte qui s'ouvre.
Oui, c'est ça. Bien résumé.
Est-ce que tu as un livre, un podcast ou documentaire que tu voudrais partager avec nous ?
Moi, j'ai un podcast que j'écoute tout le temps. C'est Génération Do It Yourself, qui est très connu dans le milieu entrepreneurial et qui est vraiment excellent. Et du coup, depuis quelques temps, aspirons le féminin.
Bah, merci.
Oui, mais voilà. C'est vraiment de manière générale, les podcasts sont très, apportent beaucoup de contenu personnel, de recul, de témoignages qui permettent aussi de se construire. Et Génération Do It Yourself vraiment est très bien fait.
Bah, merci beaucoup, Zineb.
Merci à toi.
Si on veut t'écrire, ça se passe où ?
Sur LinkedIn, je suis très, très réactive. Et ensuite, voilà, selon les besoins, par mail, mais je leur donnerai. Voilà. Si quelqu'un me contacte, je vais rester avec eux sur LinkedIn si je suis très réactive.
Oui. Bah, merci encore pour l'histoire de EasyGain. Très, très beau projet, vraiment. Et encore bravo, en tout cas.
Merci beaucoup.
Et je te laisse le mot de la fin.
Allez-y, n'ayez pas peur et ayez confiance en vous. Homme ou femme, enfin vraiment juste allez-y et n'ayez pas peur.
D'accord, bah, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté cette interview. Si celle-ci vous a plu, rendez-moi un petit service, cela ne vous prendra que quelques secondes. Allez mettre une bonne note au podcast. Et pour retrouver tous les détails de l'épisode, je vous donne rendez-vous sur le site inspironsleféminin.fr. Ces épisodes, vous les retrouverez également sur la chaîne YouTube. D'autres surprises arrivent très vite et pour ne pas les rater, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Je vous dis à la semaine prochaine.